De quoi s'agit-il?
C'est tout ce qu'il y a de simple, voyons.
Mais enfin, qui êtes-vous?
Répondez.
Je ne sais pas pourquoi vous nous faites perdre notre temps.
C'est vraiment incompréhensible.
Alors j'écoute.
Merci.
Eh ben, je vous écoute, parlez, allez.
Allez-vous me répondre, oui ou non?
Cinérama.
Vous en êtes sûr?
J'en suis certain.
Ah, un petit mot encore.
Cinérama.
Que faites-vous maintenant?
Actualité cinéma.
Ah bah voyez-vous ça.
Et tout le reste.
Je ne crains pas d'affirmer que notre émission est une entreprise de salubrité publique.
C'est délicieux. Nous avons tous nos petits fantasmes.
Je sais que vous êtes très occupés, aussi nous ne vous retiendrons pas longtemps.
Je serais ravi de vous croire.
Un blind test, une interview et puis des films qui sont dans les salles depuis le 13 novembre. Voilà, c'est Cinérama. Bonjour Marine.
Bonjour, bonjour à tous.
Deux films aujourd'hui.
Oui, alors pour ma part, ce sera eh bien, deux films assez engagés. Un documentaire qui s'appelle Océan, réalisé par Océan lui-même. Et un film franco-tunisien qui s'appelle Noura Rêve.
Et puis toi, un grand écart, Manu.
Mais deux films de genre quand même, quelque part. Hein. Un film suédois assez étrange, Cocody, Cocoda. Et puis une reprise, Evil Dead 2 de Sam Raimi.
On dirait une chanson de Annie Cordy plutôt.
Oui, ça fait pas très suédois.
C'est une comptine suédoise très connue en fait.
Et puis moi, eh bien, je vous parlerai de Le Mans 66 qui nous donnera l'occasion de jouer un blind test spécial course automobile. 5 extraits dont il faudra deviner le titre. Et puis on écoutera Jessica Hausner, c'est la réalisatrice de Little Joe. Et elle était en compétition à Cannes et c'est le prix d'interprétation qui est revenu à l'interprète de ce film, Emily Beecham. Ainsi débute Cinérama avec bien le regard sur la société tunisienne patriarcale et arbitraire.
Je ne me souviens pas du nom.
Cinérama.
Si vous voulez appeler ça comme ça.
Oui, on commence avec Noura Rêve, donc réalisé par Inde Boujema. Alors avant toute chose, pour bien saisir les enjeux du film, pour bien comprendre le film et avant de vous livrer le synopsis, il faut savoir eh bien, qu'en Tunisie, de nos jours encore, la loi punit l'adultère très sévèrement de 5 ans de prison, que ce soit le mari ou la femme qui est fautée. Et pour des raisons sociétales, eh bien, ce sont bien plus souvent les maris trompés qui ont recours à cette loi pour faire emprisonner leurs femmes, les femmes, elles, ne portant que rarement plainte pour adultère. Nous sommes donc dans Noura Rêve de nos jours en Tunisie et Noura attend avec impatience que son divorce soit prononcé. Elle est encore officiellement mariée à Jamel, un petit escroc qui a passé sa vie à faire des allers-retours en prison et elle ne souhaite qu'une chose, s'en séparer officiellement afin de vivre pleinement son histoire d'amour avec son amant Lassad. Mais Jamel est libéré plus tôt que prévu.
عشان تحكي
جمال خرج خذ عفو.
La réalisatrice Inde Boujema a été confrontée au cours du printemps arabe à la précarité des femmes qui tentaient de s'émanciper. Après un documentaire sur le sujet, elle a donc écrit Noura Rêve, une fiction, mais qui demeure profondément ancrée dans ses réalités sociales. Ici, on conserve la fougue du documentaire. En suivant de très près Noura, ce personnage de blanchisseuse qui doit jongler sur un espace-temps très court entre la justice, son mari libéré qu'elle veut fuir et son amant qu'elle veut voir. Le personnage de Noura est extrêmement complexe et souvent paradoxal, ce qui ne la rend pas forcément sympathique mais assez passionnante à suivre. L'une des forces du film, ce sont les comédiens qui sont vraiment impressionnants, d'autant plus qu'il y a une dimension ici que nous ne pouvons pas saisir, nous, spectateurs français, c'est que les deux comédiens principaux en fait sont utilisés à contre-emploi total. Le mari de Noura est interprété par Lofti Abdelli, qui est un humoriste très connu en Tunisie, donc très loin du personnage d'homme violent qu'il incarne ici, et Inde Sabri, qui interprète Noura. Et elle, alors une véritable star dans les pays arabes, elle est notamment connue pour être une vraie icône glamour. Pour interpréter Noura, elle a dû réapprendre à parler l'arabe dans le jargon de la rue. Elle a été filmée vraiment sans artifice, donc parce qu'elle incarne ici un personnage de femme très pauvre, un petit peu comme Marion Cotillard dans Deux jours, trois nuits, des frères Dardenne. Et Noura Rêve, sur plusieurs points, m'a beaucoup fait penser aux frères Dardenne. Ça pourrait être le cinéma des frères Dardenne transposé en Tunisie. Alors, ces choix de distribution ne sont bien sûr pas anodins pour la réalisatrice qui compte justement sur ces deux personnalités tunisiennes, pour ouvrir le débat autour de cette loi contre l'adultère. Ce film est un film marquant, donc je pense qu'il réussira justement à ouvrir un petit peu ce débat sociétal.
Allez, on parle du couple et on va du côté de la famille avec une plante qui fait le bonheur des hommes en les transformant en gentils zombies. C'est Little Joe de Jessica Hausner.
Voyez ce que vous pouvez nous concocter de beau dans ces 5 minutes.
Cinérama.
C'est un passe-temps surprenant.
Je n'arrive pas à comprendre comment toujours on ramène la réalisatrice autrichienne Jessica Hausner à son rôle de SX Script Girl, ce qui n'est pas facile à dire, chez Michael Haneke, ce qui permet d'un coup de juger son cinéma forcément formaliste et distancié, comme si elle avait tout emprunté au maître. Alors je rassure ceux qui n'aimeraient pas le cinéma de Michael Haneke, je sais qu'il y en a, et bien ils peuvent regarder Little Joe, le film de Jessica Hausner qui a été snobé à Cannes, mais qui a quand même permis à l'actrice Emily Beecham de remporter le prix d'interprétation. Alors il faut dire qu'elle est quasiment de tous les plans. Elle y incarne Alice, une mère célibataire phytogénéticienne, et avec son équipe de chercheurs, elle a conçu une plante qui a la vertu de rendre les humains heureux, à condition évidemment de s'en occuper. Il faut une sorte de main verte, donc s'assurer d'une bonne température, de la bonne nourriture, et puis lui parler à cette plante. Alors elle brise ainsi le protocole en apportant un sujet chez elle pour l'offrir à son fils prénommé Joe. La plante s'appellera Little Joe. On a notre titre. Alors du film de science-fiction, mais la réalisatrice nous dira que son histoire en fait aurait pu se dérouler dans le passé, avec son univers de laboratoire stérile où le blanc est frappant et la couleur pimpante, la plante est vraiment d'un rouge profond, eh bien on pénètre dans le thriller au contour nébuleux. Car Little Joe, cette création génétique, semble échapper aux mains de ses créateurs. Si on l'approche de trop près, eh bien, elle expulse son pollen dans les narines de l'intrus et sa personnalité n'est plus la même. Elle agit donc sur les hommes pour les transformer en zombies, alors des zombies très proches de leur apparence, mais des zombies quand même. La plante cherche à faire régner une espèce de règle du bonheur, quelle que soit la méthode. Alors on peut donc voir dans ce film la critique d'une science à la solde du marketing, mais il y a une double lecture. Le film qui avance à tâtons dans une ambiance particulièrement cadenassée par la musique, la luminosité et les couleurs, le fameux formalisme, eh bien, jouit d'une double lecture. Le thriller se fait aussi psychanalytique et les rapports qu'entretiennent la mère avec son fils sont alors déterminants, car qu'il s'agisse de cette plante créée de toutes pièces ou d'un enfant qu'on met au monde, dans les deux cas, cette naissance comporte des risques. C'est, je pense, ce que va nous dire Jessica Hausner qui était à Cannes et elle était en conférence de presse où nous étions nous-mêmes.
We are entering a new era here. The first antidepressant happy plant. I mean, you can imagine the benefit for humanity.
C'est un film de genre, certes, mais ça ne l'est pas non plus exactement. L'idée, c'était que la fin soit heureuse. Contrairement aux films d'horreur, aux polars, où tout le monde est infecté et que c'est catastrophique. En fait, ce que je souhaitais faire, c'était de montrer qu'on pouvait vivre avec ces zombies, que tout allait bien se passer. J'adore cette musique qui donne un sentiment très étrange, bizarre, et c'est ce qu'il fallait pour le film. Aussi, ça rehausse le suspense. Pense, le public a ce sentiment que on ne sait pas trop ce qui va se passer dans le film.
I think Little Joe's pollen triggered something.
Ma sœur a dessiné les costumes et dès le début, nous avons travaillé ensemble sur les couleurs qui devaient figurer dans le film. Aussi, Emily a joué un rôle très important. Emily allait jouer le personnage principal dans le film et elle est rousse. Nous avons décidé ainsi qu'il fallait que les blouses soient roses ou vertes. L'idée, en fait, c'était que les couleurs jouent un rôle important dans le scénario en général. Mes films ne sont pas des films particulièrement réalistes, ce sont des films très stylisés. J'aime bien la notion de conte de fées et ça marche dans tous les pays. Ce n'est pas vraiment un film qui se déroule dans un avenir proche, ça aurait pu se dérouler déjà dans le passé. Je préfère donc, dans mes films, montrer le côté plutôt existentiel.
You're a good mother. Which of your children will you choose?
Le film pose la question, c'est quoi le bonheur, en fait. Et si une plante rend les gens heureux, c'est bien. Est-ce que ce n'est pas bien? Bien sûr, tout le monde dans la vie veut être heureux. Mais en général, on est heureux pendant un instant, plutôt passager, et puis après, on ne ressent plus ce sentiment de bonheur. Le bonheur, avant tout, c'est une idée. Ce n'est pas quelque chose de tangible.
Le bonheur comme abstraction dans Little Joe de Jessica Hausner, en salle depuis le 13 novembre. Un autre film qui est lui aussi dans les salles depuis cette date, c'est Cocoda, film suédois. Une petite virée en forêt suédoise.
J'ai quelque chose à dire.
Cinérama.
Et croyez-moi, ce ne sera pas long.
Alors, plébiscité pour ses courts-métrages, hein, le Suédois Johan Snyholm signe son deuxième long-métrage avec Cocoda, qui peut d'ores et déjà postuler pour demeurer au moins le titre le plus énigmatique de l'année, qui porte le nom, en fait, en toute logique, d'une comptine nordique très populaire. Alors, le film démarre classiquement comme un pur produit familial et fait même un peu peur dans le mauvais sens du terme, avec ses cadrages télévisuels et une image légèrement surexposée. Alors, cette curieuse absence de cinéma s'avère en réalité un trompe-l'œil, une manière détournée du réalisateur de nous prendre par surprise. Donc, on découvre un couple, Erin et Tobias, et leur enfant, qui se rendent à l'anniversaire d'un membre de la famille, une petite fête rance suintant une veulerie nordique assez déprimante qui donnerait presque envie de vomir. Alors, ce qui arrive à Erin, victime d'une indigestion alimentaire, l'obligeant à être rapatriée d'urgence à l'hôpital. Soignée, elle s'en sort, soulagée d'être auprès de son mari, mais le corps inanimé de leur enfant bascule le film dans l'horreur le plus indicible. Alors, quelques années plus tard, ça dure à peine 5 minutes, je spoil pas grand-chose. Alors, quelques années plus tard, le couple, marqué à vie par la tragédie, part camper un week-end au cœur de la forêt. Alors, la réparation n'a pas eu lieu, elle est en suspens, comme figée dans le temps. Ils affichent des mines spectrales, s'engueulent à tour de rôle, leur colère est palpable, installant d'emblée une tension oppressante qui ne quittera jamais le film. La première nuit baignant dans une atmosphère naturaliste, limite glauque, n'est que le début d'un long voyage en boucle, calvaire d'un homme et d'une femme pris dans cette impossibilité à se pardonner. Alors, ils sont devenus des monstres d'égoïsme. Cet aspect effrayant est heureusement contrebalancé par le regard ironique et décalé d'un cinéaste virtuose qui parvient à créer un univers singulier avec trois bouts de ficelle et une science innée du cadrage loin de l'aspect terne du début. Alors, la structure parfois mécanique du récit épouse la logique du cauchemar à répétition. Le couple va vivre et revivre la même nuit, transformant alors Cocoda en un habile et détonnant mélange de Bergman, d'Un jour sans fin et du conte enfantin distordu par des éléments propres aux films d'horreur. Alors, pour un peu, on penserait même parfois à Blair Witch, c'est dire. Mais la dimension allégorique saute aux yeux, elle parasite et alourdit parfois le film, surlignant les intentions du cinéaste de vouloir réaliser une fable moderne sur le deuil et le pardon inévitable. Ce n'est pas en s'inspirant frontalement du cinéma de l'auteur de Persona que le film trouve sa meilleure inspiration, mais en débroussaillant les chemins sinueux et insolites de l'univers féerique. L'apparition de trois personnages issus de la comptine, alors le diable, la sorcière et l'ogre, constitue la part la plus énigmatique de Cocoda, qui articule brillamment humour décalé, poésie brute et ambiance cauchemardesque. Alors, le discours pato, plus que le sous-texte sur la mauvaise conscience de parents qui n'arrivent pas à surmonter leur trauma initial, prend la forme ludique et anxiogène, en même temps d'un jeu vidéo mental et poisseux, où les personnages incapables d'analyser la situation, n'arriverait jamais à dépasser le premier palier, rejoint alors éternellement la même séquence, jusqu'à évidemment la libération inévitable, diffusant alors une émotion tout en retenue. Alors, l'effet de répétition s'avère séduisant, mais reste parfois engoncé dans son dispositif théorique, manquant de respiration et de surprise. Alors, des menus défauts d'écriture qui, au fond, ne sont rien face à l'inventivité formelle du film et l'audace constante de mélanger les genres au risque de paraître parfois prétentieux. Les parties très courtes animées, il y a un peu de cinéma d'animation à l'intérieur, sont absolument splendides, faisant alors de Johan Snyholm, on va dire un héritier, non pas de David Lynch, comme on a pu le lire un peu partout dans la presse, mais plutôt des frères Keyes, d'ailleurs, dont le génial Institut Benjamenta ressort bientôt en salle, ou alors même de Guy Madin, puisant sa force dans son goût immodéré pour l'expérimentation et les idées insolites, alors là, sorti de tout droit de chansons enfantines les plus simples. Alors, quand il se débarrassera d'une narration trop évidente dans son symbolisme et ses enjeux, Johan Snyholm pourrait devenir un très grand cinéaste. Son premier long, d'ailleurs, The Giant, inédit en salle, sur un géant qui joue à la pétanque, pourrait confirmer ses dires en espérant qu'il ne cède pas trop vite aux sirènes du cinéma hollywoodien, comme beaucoup de ses compatriotes, dont je ne citerai ni les noms, ni les films. Mais c'est quand même une pratique courante de talents comme ça, du cinéma nordique, dès qu'ils vont à Hollywood, se retrouvent catapultés sur un film d'horreur ou un polar, souvent sans grand intérêt.
Bon, eh bien, j'espère qu'il va se garder de ça. Eh bien, ça fait trois films déjà qui sont plutôt bons, qu'on vous recommande. Et en voilà un autre, c'est Le Mans 66, la bataille entre Ford et Ferrari.
Et maintenant, quelle est la suite des opérations ?
Cinérama.
Oui, oui, oh, ça va là ?
Ken, on se connaît depuis quand ? J'ai déjà trahi ta confiance ? Je vais te mettre au volant d'une voiture au Mans. Alors ferme ta gueule et laisse-moi faire ce que j'ai à faire.
Alors, il fallait bien 2h33 pour parler d'une course automobile d'endurance devenue incontournable, les 24 heures du Mans, de l'importance que cette compétition revêtait pour les constructeurs à une époque plus lointaine. Le Mans 66, on le devine, nous plonge dans les années 60 du côté du géant Ford, dans la rivalité qui va l'opposer à la petite Scuderia Ferrari. Depuis le début des années 60, l'équipe d'Enzo Ferrari arrive toujours à boucler en tête les 24 heures du circuit de la Sarthe, mais en 66, eh bien, c'en sera fini et pour longtemps. Alors, Le Mans 66 ne nous raconte pas cette chute, mais ce qui l'a conduite, soit la mise sur pied d'une voiture, la Ford GT40. Celle-ci incarne la volonté d'un homme, le petit-fils d'Henry Ford, d'en découdre avec Ferrari et de s'imposer en Europe, pari gagné.
Monsieur Ford, Ferrari a un message pour vous.
Qu'est-ce qu'il a dit ?
Il a dit que Ford fabriquait des petites voitures affreuses dans des usines affreuses. Et il vous a traité de gros, monsieur.
On va enterrer Ferrari aux 24 heures du Mans.
Ce que pense Enzo Ferrari de Ford est bien au-delà de ce qu'on entend ici. Ce que nous apprend le film de James Mangold, qui a quand même un souci d'exactitude, c'est que le projet d'emmener Ford au Mans est avant tout un projet du petit gars du marketing. Mais si le constructeur américain finit par se retrouver sur la piste française, c'est avant tout pour une question d'ego. Cependant, le réalisateur américain ne fait pas que nous raconter les ficelles d'une réussite, il raconte aussi celle d'une rivalité amicale entre deux hommes, le Texan Carroll Shelby, qui a été le premier à remporter les 24 heures du Mans et qui s'est reconverti en préparateur de voitures de course, interprété par Matt Damon, mâchant un chewing-gum tout du long, et son pilote, le britannique Ken Miles, un type sombre, pas accommodant du tout, mais rapide, interprété par un Christian Bale, qui s'en donne à cœur joie en équilibre sur la corde du cabotinage.
Il n'y a rien là-dedans qui parle de mon coffre et de votre charmante petite valise de malheur.
Vous tenez l'édition 62 du SCCA.
Et vous pouvez vous mettre ce putain d'autocollant sur ce qui ne doit pas souvent voir le soleil, d'accord ?
Alors, Bill, quel est votre problème ?
La voiture ne suit pas
Bill,
les règles.
Bill, ici présent, est le roi des connards.
Oui. Non, il ne le pense pas.
Oh, si, il le pense.
Non, il ne le pense pas.
Il est sincère quand il dit que Bill est le roi des connards.
Je fais juste
mon boulot. Bill. Par mon expérience, je sais que... Écoutez-moi, dans ces cas-là, il y a toujours un terrain d'entente. Hein ? Ken a exagéré, d'accord.
Et moi, je fais que mon boulot.
J'ai bien compris. Les jours de course, il est toujours sur les nerfs, vous le savez. Hein. Vous n'allez pas nous disqualifier pour un coffre.
Ainsi, le film est l'exploration d'une victoire. Alors, si on y voit des courses de voitures filmées à l'ancienne, caméra tremblotante dans le cockpit ou ras du sol, avec les regards des pilotes prêts à en découdre, eh bien, Mangold raconte aussi une histoire d'hommes et leur fonctionnement. Le réalisateur est loin de glorifier Ford. Il montre au contraire combien ce duel entre les marques est puéril et une conséquence d'un jeu de pouvoir. Reste la course automobile, un sport bien plus présent aux États-Unis ou en Angleterre qu'en France. En parvenant à nous immerger dans le cockpit avec son pilote qui se montre bavard, Mangold laisse entrevoir ce que signifie régler une voiture à une époque où il n'y avait ni ordinateur ni soufflerie. Le pilote, et c'est toujours le cas aujourd'hui, est capable de donner suffisamment d'informations pour qu'une voiture aille toujours plus vite. Avec son film, James Mangold, à qui l'on doit l'excellent Logan, 3h10 pour Yuma ou même Copland, fait vibrer une sorte de nostalgie dans la simplicité de la forme et du sujet. Et comme le disait Matt Damon dans une interview, des films comme Le Mans 66 représentaient le tout venant des sorties jusqu'aux années 90. Le Mans 66 a de quoi ravir les amateurs de voitures fanfaronnantes, mais aussi les curieux. L'écriture au cordeau, l'humour, l'interprétation, l'absence d'effets spéciaux concourent à faire de Le Mans 66 plus qu'un divertissement testostéroné, comme il en pleuvait dans les années 80 et 90. Ce film nous donne l'occasion de jouer un blind test spécial course automobile. Il y a eu quelques films, effectivement, il y en a de moins en moins. Allez, premier extrait.
15,9 mm trop large, tu sais bien que ça n'a aucune incidence sur la vitesse. Et tu as contesté, tes avocats ont fait pression sur les autorités, on était obligé de tout reprendre à zéro et la voiture est devenue un monstre.
Mais un monstre réglementaire.
Ton seul recours était de tricher.
C'est toi qui as une voiture illégale et c'est moi le tricheur, c'est vraiment tragique. La loi, c'est la loi.
Certes, et un rat sera toujours un rat. Merci, salut.
Est-ce que tu crois sérieusement que ça me blesse? Que tu me traites de rat parce que je ressemble à un rat? Je ne suis pas vexé. Les rats sont laids, c'est sûr, et personne ne les aime, mais ils sont très intelligents et ils ont un fort instinct de survie.
Tant mieux pour eux.
Ah, je pense que c'est Rush.
Oui, c'est ça. Et c'était donc la voix française de Niki Lauda, interprétée par Daniel Brühl, et qui avait en face de lui Chris Hemsworth, qui interprétait James Hunt. Et tout ça, c'était le duel qui opposait les deux pilotes en 76. Ça fait 338 000 entrées en France, 554 000 en Allemagne et 1 million en Italie.
C'était super voilà. Bien. Enfin, moi, j'ai beaucoup aimé, alors que c'est pas mon genre de film.
La course automobile. Allez, deuxième extrait.
Il y a des années que nous voulons coincer Royalton pour des douzaines de crimes industriels capitaux, y compris la falsification de résultats. Mais nous manquions de preuves pour l'inculper jusqu'à maintenant.
Mais lui, qu'est-ce qu'il fait ici?
Ressort X travaille de près avec notre division infraction à la WRL. Il nous aide à recruter des pilotes comme vous, Speed.
Pourquoi est-ce qu'il porte toujours ce masque?
Si l'un d'entre vous connaissait son identité, vous deviendriez des cibles pour ses ennemis parmi les plus cruels combinards du monde.
Alors, ça a été trouvé, Manu.
Speed Racer des Sœurs Wachowski.
Oui, Wachowski, adapté de la série animée japonaise MacGoGoGo. Moi, un film que j'ai beaucoup aimé, mais qui a fait 111 000 entrées.
Également, hein, j'ai adoré ce film.
Mais oui, mais 111 000 entrées en France. Voilà, gros bide hein, pour quand même les réalisatrices de Matrix. Allez, troisième extrait.
Je vais te donner un moteur. Surbaisser ton châssis, tu auras droit à un carter extra large avec un meilleur aérodynamisme. Comme ça, ça te filera 30 ou 40 chevaux supplémentaires. Et puis je vais te bichonner une carburation qui sucera 4 litres de plus. Ensuite, je te raboterai le museau d'un centimètre et je t'affinerai comme un obus. Quand tu auras les peintures de guerre et qu'on t'aura pesé, tu seras prête pour le grand circuit ovale. On se comprend.
Sorte de métaphore de la chirurgie esthétique. Hein,
Alors, c'était C'est Jour de tonnerre oui. De Tony Scott.
Oui. Film de 90 avec Tom Cruise, 1 385 000 entrées en France. Quatrième extrait.
Il l'a fait, oui, il l'a encore fait. Un joli hit, la perfection. Et la cible n'a pas souffert. Dommage qu'il n'ait eu que 38 ans. Il suffisait de 2 ans et il pouvait faire 3 fois plus de points. Mais nous voyons encore une fois Mitraillette Joe réussir l'exploit d'inscrire des points le premier.
Qu'est-ce que tu en dis? Ça t'a impressionné, j'espère.
Je ne sais pas. Le Mans, non?
Oh non, mais tu connais non. Ce film, c'est un film de genre. Oui.
C'est la course à la mort oui. De l'an 2000.
C'est ça, film de 75 voilà. De Paul Bartel, Paul Bartel ouais. Avec Sylvester Stallone notamment. 1 million d'entrées à peu près en France. Dernier extrait.
Autrefois, ça me bouleversait. Quand je voyais un accident comme ça, ça me faisait si mal au cœur que je voulais abandonner. Arrêter ma voiture et fiche le camp. Il fallait que je prenne sur moi pour continuer. Mais j'ai pris de la bouteille. Quand je vois qu'il se produit une chose épouvantable, j'appuie sur le champignon, à fond, parce que je sais que tous les autres pilotes lèveront le pied.
Quelle horrible façon de vaincre.
Non, il n'y a pas d'horrible façon de vaincre. Il faut vaincre.
Ça a été trouvé, Manu.
Grand prix de Frankenheimer.
Belle mentalité.
Film de 66 avec quasiment 1 million d'entrées en France. Ainsi s'achève ce blind test sur la course automobile. Et maintenant, eh bien, on va parler d'Océan. Alors, ce n'est pas un documentaire de Jacques Perrin, mais un autoportrait d'un homme transgenre.
This is Cinerama.
Et ça, c'est clair.
J'ai compris que j'étais épuisée d'être une femme parce que ce n'était pas en adéquation avec qui je me sentais intérieurement. J'ai donc pris la décision de changer de genre, de m'affirmer tel que je suis, un homme trans.
Alors, Océane Rosemarie était à la base une comédienne, auteure de la pièce La lesbienne invisible, mais aussi du spectacle Chaton violent, ou encore réalisatrice du film Embrasse-moi. Son œuvre a pendant une quinzaine d'années exploré sa propre homosexualité, puisqu'elle se revendiquait femme lesbienne, jusqu'à il y a 2 ans, lorsqu'elle annonce dans les médias qu'elle va changer de genre et passer donc du genre féminin au genre masculin, et par la même occasion changer son nom Océane Rosemarie en Océan. Son changement de genre va s'accompagner eh bien, d'un traitement hormonal, mais aussi de chirurgie, de démarches administratives. Et Océan va filmer pendant 1 an ces changements, ce qui donne donc ce documentaire. Alors l'un des aspects intéressants du documentaire, c'est que la caméra est plurielle. C'est parfois Océan lui-même qui la tient, c'est parfois une amie dont on ignore l'identité. Et pourtant, la caméra est partout. Au sein de ses relations amoureuses, quand elle dialogue avec sa mère, qui, elle, a du mal à accepter que sa fille devienne son fils, elle est partout sans pour autant sembler intrusive, grâce notamment au montage, puisque nous sommes face à des séquences montées très cut, hein, avec un rythme très rapide, qui ne s'attarde pas sur les émotions des personnes filmées, qui ne s'attarde d'ailleurs peut-être pas assez sur les dialogues. On a parfois une légère frustration lorsque le montage décide de couper des conversations qui pourraient être vraiment intéressantes. Et en même temps, la raison est simple, hein, c'est qu'avant sa sortie en salle, le documentaire Océan était surtout diffusé sur le web par tranche de 10 épisodes.
Tu seras pas un homme, tu seras pas mon fils.
Je serai quoi alors?
Tu seras trans.
déclencherait ton trans ?
Oui, mon trans à moi.
Il est légitime de mettre en adéquation l'identité civile avec l'identité sociale.
C'est elle qui fait la musique ou c'est lui qui fait la musique ?
J'en sais absolument rien. Là, tu me poses une colle. Le sujet de la transidentité, et plus particulièrement de la transition, hein, c'est-à-dire du fait de passer d'un genre à l'autre, a déjà été abordé au cours des dernières années à travers des œuvres de fiction, mais pas dans un documentaire. Enfin, il me semble, moi, j'en ai pas trouvé de trace. Et dans ces œuvres de fiction, je pense notamment à Girl, primée à Cannes il y a 2 ans, ou encore à The Danish Girl, la transition, le regard des autres, l'impact sur le physique sont abordés comme autant de ressorts dramatiques pour l'histoire et autant d'obstacles à affronter pour le héros ou pour l'héroïne. Ici, rien n'est abordé à travers le prisme du drame. L'atmosphère du documentaire est même légère. Et je crois que c'est quasiment un parti pris militant que de dire, eh bien oui, on peut changer de genre sans que cela se fasse dans la douleur, dans l'isolement, dans le rejet. Alors après, la facilité apparente de cette transition s'explique aussi hein, par l'âge du protagoniste, Océan, qui a déjà 42 ans lorsqu'il change de genre. Et il faut aussi bien sûr préciser qu'il a la chance d'évoluer dans un milieu parisien, ouvert, plutôt aisé. Hein, bien sûr, ce qui change la donne. Alors malheureusement, j'imagine que le public qui ira voir ce film hein, sera quand même un public de niche. Moi, je crois que c'est un bon documentaire pour faire comprendre aux gens ce qu'est la transidentité, comment se passe une transition. Et d'ailleurs, on est ici vraiment devant un documentaire au sens document. Il n'y a pas de portée artistique, il n'y a pas d'intention de création dans l'utilisation de la caméra, mais il y a une envie spontanée à travers ce documentaire de témoigner de ce changement de vie. Et on ressent justement dans le film un élan de vie très fort et c'est ce qui le rend assez intense.
Et on l'entend, hein, le son de toute façon, il y a quelque chose d'assez brut.
C'est très brut, oui, très spontané.
On passe à un film culte, on aime bien parler des films, des ressorties, et là c'est un film qui date d'un certain nombre d'années, celui de Sam Raimi, Evil Dead 2.
Avec vous j'ai du travail soigné.
Cinérama.
Et ça c'est clair.
4 ans plus tôt, dans cette forêt tranquille, à l'intérieur de cette cabane, quelque chose d'inexplicable est arrivé. Quelque chose d'effrayant. Quelque chose qui frôle la mort. Quelque chose de diabolique. Prions pour que cela n'arrive plus jamais. Evil Dead 2. Ils mourront au petit jour.
Alors, on connaît la fin.
Oui, non. Petit retour en arrière. Hein. Sam Raimi n'a que 20 ans lorsqu'il se lance au début des années 80 dans l'aventure Evil Dead. D'ailleurs, ses copains à l'époque, c'était Joel et Ethan Coen, dont Joel tenait par ailleurs la caméra. Alors, court métrage de 30 minutes initialement, hein. Evil Dead sort en long, donc, du coup, en 82 et devient culte, transformant une vague série Z sur le papier en un déluge d'inventivité formelle troué de gore qui tâche. Alors il réinvente le cinéma d'horreur, s'éloigne de ses maîtres pour proposer un univers plus délirant, très premier degré et non dénué d'humour. Déjà l'influence du cartoon s'insinue discrètement au milieu de cette histoire de cabane hantée infestée par des zombies revenus à la lecture du Livre des Morts. Cette filiation explose totalement dans la suite, tournée 5 ans plus tard, avec toujours le génial Bruce Campbell dans le rôle de Ash, le valeureux anti-héros des temps modernes à qui il n'arrive que des misères. Alors bénéficiant d'un budget confortable de 3,6 millions de dollars en comparaison du premier hein, qui était tourné autour de 100 000 dollars. Hein. Sam Raimi, en néo-maniériste, n'élabore pas un scénario complexe, hein, reprenant à peu de choses près les éléments du premier, au point de réaliser quasiment un remake plutôt qu'une suite directe. En effet, Ash, comme frappé d'amnésie, se retrouve avec sa petite amie dans la cabane perdue au fond des bois. Toujours aussi crétin, il tombe sur Livre des Morts, réveillant alors une force maléfique prenant possession de tout ce qui ressemble de près ou de loin à un être humain. Et c'est parti pour 1h20 de pur délire, d'une sorte de voyage euphorique dans un train fantôme sous acide. Pas de doute, Sam Raimi, après l'expérience douloureuse de Mort sur le grill écrit par les frères Cohen, fonce tête baissée dans son univers et n'épargne rien aux spectateurs. Alors cinéphile érudit, hein, il maîtrise l'art de la citation, rendant un hommage burlesque à la comédie musicale hollywoodienne, au magicien des effets spéciaux Ray Harryhausen, évidemment, lors d'une splendide danse chorégraphiée avec un squelette, et surtout au génie de l'animation Tex Avery, influence la plus évidente du film, davantage que les films d'horreur en fait. Hein. Ash rejoint cette galerie de losers dépeints par Tex Avery, alors chez Tex Avery c'est les animaux bien sûr, qui s'en prennent plein la poire du début à la fin, incarnant une sorte de coyote maltraité par les forces du mal, représentation démoniaque de Bip Bip. Alors le corps élastique et la minaillerie de Bruce Campbell sont génialement mis en valeur par la caméra furibarde de Raimi, toujours à l'affût d'un plan inventif de plongée, de contre-plongée à donner le vertige et de travelling expérimentaux. Raimi s'amuse et ne souhaite qu'une chose, nous embarquer dans son délire et nous transmettre son amour du cinéma. On n'oubliera pas Tito, le combat homérique entre Ash et sa propre main, ni ce pastiche commando hein, avec Schwarzenegger, où Ash remplace cette même main par une tronçonneuse et se métamorphose en véritable soldat des temps modernes. Alors 32 ans après sa sortie en salle, hein, force est de constater qu'Evil Dead 2, avec ses effets spéciaux remarquables, signé par un très jeune débutant qui avait une vingtaine d'années, Greg Nicotero, alors aujourd'hui à la tête de Walking Dead, Master of Horror et de films comme Planète Terror, et son rythme d'enfer n'a pas pris une ride. En 93, Rémy tourne un troisième opus avec L'Armée des Morts, qui abandonne encore davantage l'horreur pure pour se frayer un voyage dans le temps du côté de l'heroic fantasy. Voilà, il y a même eu récemment une série qui a été diffusée sur Netflix. Voilà, un petit bonheur hein, qui ressort en salle dans une copie restaurée. Et pour moi, c'est immanquable.
Voilà, que des bons films, une bonne émission.
Vous avez fini ?
Eh bien, oui, je crois que oui.
Oh, c'est pas possible.
Si, je vous assure.
Vous n'avez pas perdu de temps, c'est très bien.
Foutez ma gueule !
La semaine prochaine, vous écouterez un des vainqueurs du Festival de Cannes, La Gilly, pour Les Misérables.
Et moi, je vous parlerai d'In Fabric et de Terminal Sud.